France Culture. Vous écoutez France Culture. Tout de suite, la série musicale. Zoé Sfez.
Satie, c'était quelqu'un qui fuyait les gens, qui se cachait là derrière une colonne et on allait derrière la colonne, il était déjà derrière une autre. C'est quelqu'un qui était insaisissable et ça se ressent dans sa musique.
Il est ce qu'on appelle un homme problématique. C'est-à-dire qu'il y a en lui une complexité, une contradiction. On fait de lui un représentant du style plat, non sans raison. Et les arrière-plans, la pénombre sont absentes.
Déjà, je crois qu'il faut l'approcher avec le respect qu'on doit à un homme pudique et avec le respect qu'on doit à un homme drôle. Satie, il est d'autant plus pur et d'autant plus sacré qu'il porte les habits à certains moments du clown.
Satie, c'est encore toujours la simplicité. C'est ce que je trouve qui est un plus important dans l'art, c'est la simplicité. Parce que l'art n'est pas une reproduction de la vie, c'est une esthétisation de la vie.
France Culture, la série musicale, Zoé Sfez.
Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les récits, de toutes les substances. Une heure de radio sur la musique et en musique, c'est la série musicale. Bienvenue. Et pour fêter cette nouvelle année, pour entrer en 2025 avec douceur et profondeur, une année qu'on vous souhaite aussi révoltée et sympathique que possible, nouvel épisode de notre série L'Éternel Retour, que vous connaissez bien. C'est une série qui regarde comment un répertoire, une œuvre, une mélodie, en général aussi le travail d'un compositeur, revient en fait inlassablement, habillé d'autres mots, d'autres couleurs, ou grâce à d'autres instruments dans nos oreilles, pour habiter durablement nos imaginaires. Comment sampler, reprise, réarranger, citer. Certaines mélodies sont omniprésentes en ce premier quart du XXIe siècle, alors qu'elles ont parfois plus de 100 ans. On a parlé ici de comment les trouvailles de Chopin, Ravel ou Debussy sont en fait absolument partout, dans les chansons de variété qu'on écoute, dans les bandes originales des films que l'on aime, qui elles sont devenues parfois des standards de jazz, parfois si bien déguisées que si on n'écoute pas de musique classique, en fait, on les connaît parfaitement, ce qui fait office de tube, finalement. Alors, le cas qu'on traite aujourd'hui est un cas forcément à part, car sa musique, eh bien, à l'instar de Chopin, Ravel, Debussy ou Wagner, l'une des musiques les plus jouées au monde, l'une des musiques aussi les plus reprises, mais elle n'est pas tout à fait exploitée comme celle des autres compositeurs qu'on vient de citer. En fait, c'est assez logique, puisque même de son vivant, il était à part. Collectionneur de parapluies, clochard céleste, sans le sou, chef d'une église qu'il a fondée et dont il était le seul membre, obsédé autant par le Moyen-Âge, la Grèce antique, que par un humour et une ironie qui lui ont fait baptiser ses œuvres « Marceau en forme de poire »,« Pièce froide »,« Embryon desséché » ou « Aperçu désagréable ». Il y a toujours chez lui une ambiguïté, une ambivalence, une contradiction. C'est sa marque, la marque d'Éric Satie, qui cette année nous aura quittés depuis 100 ans. « Je suis venue au monde très jeune, dans un temps très vieux », disait Éric Satie. Lui, qui est à la fois un très bon musicien, très inspiré, mais un compositeur mal formé, produit en fait une œuvre qui va annoncer tout ce qui s'est passé ensuite au XXe siècle. Du jazz à la musique répétitive, au minimalisme, on va tenter de comprendre pourquoi on ne peut pas oublier Satie. Ce paradoxe sur pattes, clown triste, icône célébrée pour sa bizarrerie, et dont l'œuvre est presque éclipsée par ses 9 tubes, 3 gymnopédies et 6 gnossiennes que vous connaissez tellement bien qu'elles ont peut-être encore de quoi vous surprendre. Éric Satie, L'Éternel Retour, c'est dans la série musicale sur France Culture.
Musique.
Bill Evans, pianiste, arrangeur de jazz, de génie, accompagné d'Herbie Mann, en trio, qui reprennent ici une gynoptédie d'Eric Satie. Alors Eric Satie, on l'a dit, est l'un des compositeurs les plus joués au XXe siècle, sans doute les plus repris. Il est devenu notamment l'un des compositeurs les plus aimés des musiciens de jazz. Cette gymnopédie ainsi que les gnossiennes sont des standards en eux-mêmes. On les joue absolument partout et tout le temps. Bill Evans, qui est pianiste et qui souffrira aussi, lui, toujours d'un problème de lumière et d'ombre. Lui qui fut un très grand pianiste, un très grand jazzman, mais qui fut surtout célèbre et célébré pour être l'arrangeur de Miles Davis, a une grande sensation de proximité avec Eric Satie. D'une part, parce que les apports musicaux d'Eric Satie vont faire qu'il ouvre un monde entier à ce qui, d'une certaine manière, va devenir le jazz, puisque quand il meurt en 1925, le genre est en train de se constituer. Qu'est-ce que c'est les apports de Satie que les jazzmans idolâtrent tant? Il y a d'une part ce fameux balancement, ce balancement d'accords qu'on retrouve un peu partout, qui est si jazzistique et qui, à l'époque où Satie les met en application, ne sont pas si bien compris par ceux qui l'écoutent. C'est le paradoxe de Satie. Il aura toujours des amis qu'il admire, qu'il aime, qui le chérissent, qui essaient de prendre soin de lui. Mais sa musique va, de son vivant, essentiellement déconcerter, faire rire au mieux. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il se défendra toute sa vie. Ou, de manière générale, être plutôt pas comprise. L'autre grand apport, en réalité, d'Eric Satie, dans ses œuvres pour piano de sa jeunesse, que sont les gynopédies, mais surtout les gnossiennes, c'est ce fameux accord de septième majeur que vous allez découvrir ici, dans cette gnossienne si célèbre d'Eric Satie, repris à la harpe électrique par la géniale harpiste italo-suisse Cathy Fusco. Thank you. Katie Fusco qui mélange harpe, sonorité électro et qui se balade dans la stéréo. Si vous avez l'occasion d'entendre cet épisode de la série musicale, soit au casque, soit avec une bonne chenille, 2023, un album assez fascinant de cet harpiste hyper doué dont on n'a pas eu le temps de parler dans notre émission sur la harpe, qui rend très bien justice, c'est très difficile, avec cette Nocienne qui a été tellement entendue et reprise qu'il est vraiment complexe de lui apporter quelque chose qui rend assez justice en fait au caractère extrêmement à la fois mélancolique mais vivant, en fait assez fuyant, de l'œuvre originale de Satie, qui est à la fois poétique, assez cristalline et qui se veut assez mystique. Rappelons que les Gnossiennes, ces fameux titres que donne Satie à des œuvres qui sont la plupart du temps des titres inventés, viendrait du mot gnose, du grec ecclésiastique gnosis, la connaissance. Au moment où Erik Satie compose les Gnossiennes, entre juillet 89 et janvier 97, il est en pleine crise mystique, après s'être intéressé à toute une foule d'églises. Il va d'ailleurs, à la suite de ça, fonder sa propre église, dont il sera assez longtemps le seul chef et le seul adhérent. Il finira par quitter la mystique. Cette gnossienne-là, ma gnossienne, comme dit Katie Fusco, c'est la gnossienne d'Erik Satie. Un Erik Satie qui met tout son rapport à la musique, et sans doute son rapport à la vie, dans ces œuvres-là, les Gnossiennes, qui, avec les Gymnopédies, vont presque éclipser, en réalité, le reste d'une œuvre qui est extrêmement dense, extrêmement drôle et extrêmement profonde. Car Erik Satie, en fait, a un rapport à la fois évident et complexe à tout ce qu'on va écouter. Il est né dans une famille de religion anglicane. Il a passé sa jeunesse entre la Normandie et Paris, chaoté après la mort de sa mère entre la Normandie, Honfleur, chez ses grands-parents paternels, et son père qui vit à Paris et qui se remarie avec une femme de 10 ans son aînée, Eugénie Barnetsch, qui est prof de piano. C'est par elle que Erik Satie va avoir accès à la musique fatalement. Il détestera et il prendra en haine la musique et le conservatoire parce qu'elles sont incarnées par cette belle-mère qu'il n'aime pas. Pourtant, la musique l'obsède. Il va rentrer au conservatoire de musique, mais être jugé tellement nul par ses professeurs qu'il sera renvoyé 2 ans plus tard, avant de se réinscrire à nouveau, en essayant de produire une meilleure impression. Mais finalement, il se sent si mal qu'il va s'engager dans un régiment d'infanterie. À l'époque où il compose les musiques qui font de lui l'homme le célèbre qu'il est aujourd'hui, il est en fait assez lacunaire dans sa connaissance de la musique. Est-ce que c'est ça qui lui permet de travailler des questions qui font de lui l'un des mecs les plus modernes de la musique, c'est-à-dire le rapport au temps, le rapport au balancement, le rapport à la nostalgie, énormément d'ironie, nul ne sait. Le fait est qu'aujourd'hui, il règne en maître dans nos oreilles, force est de constater que chacun d'entre nous se souvient peut-être de la première fois qu'il a entendu du Erik Satie, comme le raconte par exemple Philippe Catherine.
C'est pas pour rien que sa musique est toujours utilisée. Alors je vais de pub, je sais pas quoi. Et puis elle est toujours très écoutée. Vous faites écouter ça à des enfants, mes enfants par exemple. J'en fais écouter Satie. C'est tout de suite une impression forte. On sent qu'ils sont dans la voiture, ils regardent les paysages et le monde devient différent et plus marquant. Même si ça paraît une musique impressionniste, pourtant, la première fois que vous écoutez Gymnopédie, c'est un souvenir qui vous reste à jamais. Moi, je m'en souviens bien, quand j'ai écouté ça la première fois, je me dis, mais c'est pas possible qu'une musique aussi sublime puisse exister et qui repeint le monde, même si c'est un peu gris, ça vous repeint le monde quand même. Erik Satie, c'est aussi un gars qui a inventé la techno, la musique d'ameublement, la musique répétitive. C'est quelqu'un qui a tout inventé, on a l'impression que tout y est. Et les mélodies aussi, qui étaient très mignonnes aussi, chantées à l'omnibus par exemple, sont délicieuses. Il y a plein de choses extraordinaires chez Satie qui au fond écrivait la musique d'aujourd'hui. déjà.
J'ai compris ta détresse, cher amoureux, et je cède à tes vœux. Fais de moi de nous la sagesse, plus de tristesse. J'aspire à l'instant précis où nous serons heureux. Je te toute ma vie, que mon cœur soit le tien et ta lèvre la mienne, que ton corps soit le mien et que toute ma chair soit tienne.
Je te veux.
Tu sais, Tic, que sans doute vous ne connaissez pas la valse « Je te veux » composée par Erik Satie en 1903 pour une chanteuse de cabaret qui l'accompagne à l'époque, puisque c'est comme ça qu'il gagne sa vie. La chanteuse Paulette Darty, reprise ici avec Jenny sur un album qu'on continue de vous conseiller à écouter, qui s'appelle Gouache, Jackie Terrasson et la chanteuse Cécile McLaurin Salvant. Vous avez vu comme cette mélodie et donne une place folle à l'interprétation, et comme elle pourrait avoir été composée à la fois 50, voire 70 ans plus tard, très aisément, tant Erik Satie est déjà moderne. Erik Satie qui, en fait, compose un peu à rebours de tout ce qui se passe au moment où il existe. Il l'a dit, je suis née très jeune dans un monde, dans un temps qui était très vieux. Ses amis, ceux qui vont devenir ses amis, sont des immenses stars de leur vivant et encore aujourd'hui, des gens qui sont considérés comme les réinventeurs à la fois du système harmonique, de la couleur qu'aura le XXe siècle. J'ai nommé Claude Debussy, qui va rencontrer très jeune au cabaret du Chat Noir, tout ça se passe à Montmartre, à Paris. Et puis plus tard, Maurice Ravel, ils seront amis, mais là encore, la position d'Erik Satie, qui est toujours sans le sou, peu joué et qui n'a absolument pas l'art d'orchestrateur, de compositeur complexe, de symphonie, qui auront ces deux amis, aura toujours des relations très ambiguës avec eux. À la fois, ils s'aiment, eux le protègent, mais eux auront un succès que lui n'aura pas. Satie vivra toujours dans une espèce d'ombre de Claude Debussy, dans une relation qu'on considère presque comme sadomaso. Debussy, qui, pour aider un ami qui aura de moins en moins de sous à la fin de sa vie, orchestrera justement ses œuvres les plus célèbres. Maurice Ravel, dont Erik Satie dit « Maurice Ravel vient de refuser la Légion d'honneur, mais toute sa musique l'accepte ». En fait, Erik Satie, c'est un homme qui se montre créatif parce qu'il était lui, mais parce qu'il a aussi très peu de moyens. Avant 40 ans, il n'a pas reçu d'enseignement véritablement complet en matière de musique. Il s'inscrira à la Schola Cantorum alors qu'il a une quarantaine d'années et qu'il a composé la plupart des morceaux qui sont aujourd'hui les plus célèbres, des morceaux qui seront suivis par bien d'autres, qu'en fait on écoute très peu et qui sont moins repris, qui sont pourtant très intéressants et qui ont bien plus influencé qu'on ne le pense, comme le racontait le pianiste Jean-Yves Thibaudet, qui évoque le manque de confiance d'un Erik Satie dont il faudrait jouer les intégrales bien plus souvent.
Ça donne une place à Satie qui, je trouve, est, parce qu'on parle toujours de Debussy, de Ravel, et Satie, le pauvre, n'a jamais été vraiment considéré, ou on parle d'une gnossienne, une gymnopédie à droite ou à gauche, mais les gens ne le considèrent pas comme un compositeur important.
Est-ce qu'il n'a pas tout fait pour ça?
Oui, peut-être, oui. Allez savoir.
Je me demande.
Oui, oui.
Parce que, est-ce qu'il était vraiment...
particulier. Hein.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'il était vraiment fou? Est-ce qu'il faisait semblant d'être fou? Est-ce qu'il était provocateur et très excentrique?
Je pense qu'il était tout ça, oui. Provocateur, ça c'est clair. Je crois qu'il voulait voir jusqu'à où il pouvait aller. Vous pouvez pousser le bouchon dans sa musique pour voir ce que les gens allaient dire. Il adorait provoquer. Mais je pense qu'il avait une grande, quand même au fond de tout ça, on avait beaucoup parlé avec Madame Volta, je pense qu'il avait pas du tout confiance en lui-même. Je crois qu'il avait vraiment un problème de, il se considérait lui-même pas du tout comme un, il n'avait pas vraiment étudié au début avant d'aller à la Schola Cantorum, donc il écrivait comme ça.
Oui, il a pris des cours autour de 40 ans.
Et donc il se considérait vraiment qu'il n'avait aucune considération pour lui-même, ça c'est clair, oui.
Thank you.
le saxophoniste ténor Branson Marsalis. En majesté, on peut le dire, dans cette interprétation satienne assez fascinante de la gymnopédie numéro 2. Musique de riche plutôt qu'une musique de pauvre. Hein, dans cette version, une version orchestrée où il se produit avec un orchestre de chambre, ce saxophoniste ténor-là, qui lui aussi vient du jazz, des Jazz Messengers. Ce n'est pas un hasard si les jazzmen adulent, autant Eric Satie, comme lui en réalité, ils n'ont cessé d'inventer un son nouveau tout en revendiquant une place savante. Mais ce qui est intéressant en fait, avec cette gymnopédie, cet accord de septième majeure que Eric Satie introduit dans les Gnossiennes, un accord en fait qu'on considérait comme dissonant, trop exotique, qui devait sonner très étrangement aux oreilles des auditeurs d'Eric Satie, encore plus tout au long du 19e siècle, qui va devenir en fait un accord fondamental, un accord majeur, pour m'autoriser le jeu de mots, dans le jazz, évidemment. C'est un accord qui est très intéressant, parce que c'est un accord qui comporte à la fois quelque chose de brillant et à la fois quelque chose de profondément nostalgique, puisque le principe même de la septième de l'accord, c'est qu'il est un demi-ton en dessous de ce qu'on appelle la fondamentale, pour parler un peu de solfège. Et normalement, en tant que ton principal, c'est un accord qui devrait se résoudre à la racine, donc sur un accord tonique, mais dans l'accord de septième majeure, en fait, c'est un accord qui, d'une certaine manière, reste là où il est, comme s'il n'avait pas l'énergie nécessaire pour arriver en haut, comme s'il ne pouvait simplement faire comme s'il s'en fichait. C'est un peu, cet accord, une espèce de métaphore d'Eric Satie. Eric Satie qui va passer toute sa vie à certes composer dans une forme de liberté et d'insouciance totale de ce que peuvent penser le reste des gens, le reste aussi de ses camarades musiciens, qui tiendra toujours une espèce d'ironie très acerbe sur ce que lui-même produit. On l'entendait ici, Jean-Yves Thibaudet dire à quel point il manquait de confiance, mais aussi se ficher un peu à des grands compositeurs de musique classique. On vous invite à écouter ces embryons asséchés, qui sont des petites mélodies où on voit resserrer jusqu'à la moine où ne reste plus que quelques traces de certaines des nocturnes ou des valses de Chopin les plus célèbres. Eric Satie qui, en réalité, était l'un des hommes qui a fait le pont en se faisant dans cette espèce d'espace qu'il inventait hors du temps, hors de ce qui se passait. La plupart des gens qui écrivent sur Satie le disent. Au moment où Debussy, Ravel réinventent tout, changent le décor, lui empile des petits accords comme toute une série de petits bibelots dans un salon qui ne bougerait jamais. Pourtant, ces accords, ces accents, Satie font aussi un pont vers l'un des lieux, l'une des mythologies qui le fascine, l'Orient.
مشاعري أو تتسلى بسرتي كتير مش هسمح لك تبقى كرامتي سيلة رخيصة للتعبير مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسلى بسرتي كتير مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير
La voix de la chanteuse égyptienne Hand Ahmed, membre de l'Académie de musique égyptienne du Caire, qui intervient ici sur Under the Shades of Violet, l'album d'un groupe français originaire de Nantes qu'on aime beaucoup, Orange Blossom, qui travaille entre la musique électro et notamment la musique orientale, un espèce de pont jeté et d'intérêt notamment sur la question des tons, des demi-tons, des quarts de tons, de la manière dont on fait exploser les notions harmoniques qui n'auraient certainement pas déplu à Erik Satie. Erik Satie qui est ici cité d'une manière que je trouve assez intéressante et suffisamment originale puisqu'on n'est pas dans une reprise littérale. Quoi qu'il y a des reprises littérales, elles aussi tournées vers l'Orient, qu'on goûte beaucoup parce qu'elles sont fidèles à un autre aspect de la musique de Satie, son incroyable humour.
C'est son état naturel, n'est-ce pas? Surtout, c'est l'état d'ambiguïté et d'équivoque, n'est-ce pas? Et qui fait que tout ce qu'il dit a deux sens, qu'il faut chercher quelque chose d'autre. Et l'humour n'est que le masque, l'alibi, qui nous permet de dire une chose grave, sérieuse, profonde, en allant au-delà des apparences. Il a l'air de ne pas y toucher, et il nous dit sans nuance, il nous dit intitule une pièce profondeur, par exemple, et des pensées d'amoureux. Et puis, ça, le texte semble contredire ce qu'il nous dit. Mais il faut chercher, justement, cette profondeur. C'est à nous à la chercher. Et c'est pourquoi Satie, au fond, très difficile à interpréter. Parce que tout est à chercher, tout est à trouver. Il faut tout inventer soi-même. Le phrasé, par exemple. Il y a très peu d'indications d'exécution, en dehors de tout cuit.
En dehors des blagues.
C'est ça,
très turc.
Ne faites pas de bruit en mangeant, etc. Donc, des...
dans le gosier.
Plaisanterie, au fond du gosier, c'est ça, jouer avec le creux de la main.
Pour charmer le gibier.
C'est ça, pour charmer le gibier. Mais des indications pour le pianiste, il n'y en a pas. Il faut les trouver soi-même.
Thank you.
Les vexations, une vexation de Eric Satie, vexation petite pièce écrite par Eric Satie alors qu'il vient de se faire larguer par l'artiste peintre Suzanne Valadon. On est à Montmartre, il a peu de sous mais il compose aux côtés de ses amis. Elle qui fut modèle et qui est ensuite devenue peintre va être sans doute sa seule histoire connue. Il l'appelle Mabiki, rédige des notes enflammées, tout son être, tous ses beaux yeux, ses mains douces et ses pieds minuscules l'inspire. Il va composer pour elle des danses gothiques. Elle peint son portrait, un portrait qui nous est resté et qui est assez fascinant. Et le quitte 5 mois plus tard. Cela va briser un Eric Satie qui date déjà probablement pas une extrêmement haute estime de lui-même. Il va composer donc Vexation, ce tout petit thème construit à partir d'une mélodie courte à propos de laquelle il écrit « Pour se jouer 840 fois de suite ce motif, il sera bon de se préparer au préalable et dans le plus grand silence, par des immobilités sérieuses. » En le notant donc, il invite les pianistes qui le suivront à interpréter ce même motif, comme pour se flageller 840 fois. Pas grand monde va le faire jusqu'à un certain John Cage. John Cage, fondateur du mouvement Fluxus, qui dans les années 50-60 va complètement réinventer notre approche de la musique et d'une certaine manière inventer la musique répétitive et minimaliste. Hein, John Cage qui, depuis sa plus tendre jeunesse, est absolument obsédé par Eric Satie. Il va écrire à la façon de Eric Satie, interpréter Eric Satie et donc ses vexations. En Satie, il reconnaît quelqu'un qui, comme lui, invente un espace et un temps où la musique peut être enfin ce qu'elle est et pas ce qu'on attend d'elle. L'une des pratiques qui le paraît le plus intéressant dans la manière de voir, d'écrire, de placer la musique d'Eric Satie, c'est qu'il y retrouve son propre rapport à ce qu'est fondamentalement l'écoute.
People expect listening to be more than listening.
Les gens, quand ils écoutent quelque chose, ils s'attendent à ce que ce soit plus qu'une écoute. On parle souvent, vous savez, du sens des sons. Moi, quand je parle de musique, j'ai l'impression que les gens réalisent enfin qu'en fait, je parle de sons qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas intérieurs, mais juste extérieurs, qui sont là dans la vie. Et ces mêmes gens, une fois qu'ils ont compris ce que je disais, me disent « Vous voulez dire que votre musique, c'est que du son ?» Comme si le son seul n'avait aucune utilité. Alors que moi, j'adore le son. Les sons juste comme ils sont. Je n'ai pas besoin qu'ils soient autre chose que ce qu'ils sont. Je ne veux pas qu'ils soient psychologiques. Je n'ai pas envie qu'un son ressemble au bruit d'un seau ou d'un président qui parle ou qu'un son soit amoureux d'un autre son. Je veux juste que ce soit un son. Je ne suis pas stupide non plus. Hein. Vous savez, il y avait un philosophe allemand, assez connu je crois, qui s'appelle Emmanuel Kant. Il a écrit qu'il y a deux choses qui n'ont pas besoin d'avoir de signification. La musique et le rire. Elles n'ont pas besoin d'avoir de sens pour nous donner un profond plaisir. La mort de Socrate. Socrate, c'est une œuvre pour chant et piano ou orchestre que Eric Satie compose alors qu'il a une cinquantaine d'années, entre 1917 et 1918, un espèce de drame symphonique avec voix qu'il compose à la demande de la princesse de Polignac et qui est là pour accompagner la lecture de textes philosophiques. Alors on sait à quel point il a aimé la Grèce dans sa jeunesse, il y revient. La mort de Socrate, ce morceau que vous entendez ici, transcrit pour deux pianos et censé accompagner un texte extrait du Phédon. C'est une version qui est donnée pour la première fois en 1920 et la plupart du public, à l'époque, comme souvent, considère qu'il s'agit là d'une plaisanterie. Satie est absolument mortifié. Henri Prunière, critique, écrit pourtant. Cette partition d'œuvre est en tout cas originale, spontanée, sincère, exempte de tout pédantisme, de toute affectation. Il souligne que Socrate va troubler ce qui ne voit en son auteur qu'un humoriste, un Alphonse Allais de la musique, sans pressentir la portée de ses créations. Qu'une telle musique ne soit pas un instant monotone ni languissante, c'est le miracle, spectacle bien rare que celui d'un artiste créant son chef-d'œuvre à 50 ans passés. Ce n'est pas du Satie, c'est bien du James Cage que vous écoutez ici. Un tango, perpétuel tango pour piano, interprété par Bertrand Chamaillou dans un superbe disque intitulé Letters to Satie, où le pianiste français met en regard les œuvres d'Eric Satie et de John Cage. John Cage, donc profondément influencé par un Eric Satie dans ce que vous avez entendu plus tôt, La mort de Socrate, qu'il a donc interprété moult fois, dont il a traqué tous les manuscrits à travers toutes les salles de vente, la moindre lettre dont il a transcrit La mort de Socrate pour deux pianos, c'est ça que vous écoutiez tout à l'heure. Car en réalité, oui, Eric Satie, qui paraissait être l'auteur de blagues au public des années 1910, est tout simplement le précurseur d'une musique qui va atteindre son apogée et qui encore aujourd'hui triomphe, comme l'expliquait le pianiste, toujours ici, à Radio France, quand on lui demandait ce qu'il aurait aimé dire à Eric Satie s'il pouvait le rencontrer aujourd'hui.
J'aurais eu envie peut-être de lui dire... Que s'il avait pu avoir une machine à remonter le temps, ou en tout cas à avancer dans le temps, à quel point finalement sa pensée, ses musiques de boucle qui n'ont ni fin ni commencement, ont une telle influence sur notre monde sonore d'aujourd'hui, que ce soit de la bonne ou de la mauvaise musique.
Est-ce que c'est vraiment le père de la musique minimaliste pour vous ?
Moi, j'aime pas dire ça, parce que c'est un raccourci trop rapide, mais c'est sûr que je pense que c'est une des composantes de ce type de musique et de toute autre chose, en fait, de la musique conceptuelle. Mais en tout cas, c'est le premier qui, dans la musique occidentale, propose d'abolir un petit peu la notion de temps musical tel qu'on l'a d'habitude. C'est-à-dire une musique qui a une forme, avec clairement une structure. Lui propose, dès le 19e siècle, avec ses fameuses pièces, la gymnopédie, gnossienne, etc., des musiques qu'on pourrait imaginer raccourcies ou rallongées à l'infini.
John Cage ni Brian Eno, créateur de l'ambient music qui a été profondément inspiré par Satie, qui ne l'a jamais repris littéralement pourtant. Ici, c'est un homme qui a été influencé par tous ces gens-là à la fois. J'ai nommé Satoshi Ashikawa, le parrain, le créateur de ce qu'on a appelé la Kankyo Ongaku, la musique ambiante japonaise, où il y a vraiment des reprises presque littérales des accords à la Satie, des accords de Satie. Ce morceau Still Face est à retrouver dans une compilation du nom justement de ce courant, Kankyo Ongaku, qui raconte bien justement ce mouvement de l'ambiance japonais qui doit beaucoup à Erik Satie, notamment par le rapport qu'il a avec le piano, qui est toujours omniprésent, le clavier de manière générale. Les Japonais, très influencés, on le sait, par Debussy et Ravel, sont aussi très influencés par Satie. Et si vous jouez aux jeux vidéo, vous le savez, car dans la légende de Zelda, Ocarina of Time, c'est bien presque du Satie que vous écoutez. Ocarina of Time, l'un des jeux de la légende de Zelda dont la musique est composée par un pionnier assez proche de l'ambient rock. J'ai nommé évidemment Koji Kondo, musique essentielle dans ce jeu puisque c'est l'ocarina, cet instrument étrange qui dicte votre progression dans le jeu. Rien d'étonnant à ce que la notion de temps qui est vraiment explorée, qui est une notion majeure dans la gestion et la victoire dans ce jeu, fasse référence musicalement à un certain Erik Satie. Erik Satie, dont on ne le dit pas assez, évidemment, sous les ressorts répétitifs, absurdes, mélancoliques, évidemment, derrière tout cela et derrière son humour, il se cache toujours une grande mélancolie et beaucoup de sentiments. Arthur H. et la chanteuse Feist l'ont bien entendu. Arthur H. et Feist, sans doute l'une des rares tentatives de mise en parole de ces 9 tubes que sont les Gnossiennes, les Gymnopédies. C'est arrivé, ce n'est pas toujours assez brillant. On trouve ici quelque chose de très fidèle à l'esprit satien. Merci beaucoup à Théa Corler qui a préparé cette émission avec moi, à Laura Dutèche-Pérez, l'attachée de production de la série musicale, une émission réalisée aujourd'hui par Thomas Jost et mise en musique par Anthony Thomasson. N'oubliez pas de vous abonner au podcast de la série musicale et notamment à notre série L'Éternel Retour. À la semaine prochaine.